السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، bienvenue à vous, chers invités d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous qui avez répondu à cette invitation qui vous a été dirigée par Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous annonce cette grande nouvelle quand il dit « Al-Hujjaj wal-Ummar wafdullah » les pèlerins accomplissant le pèlerinage, le Hajj et la Umrah, sont les invités d'Allah. Da'ahum fa'ajabuh, il les a invités et eux lui ont répondu. Wa sa'aluhu fa'atahum, puis ils lui ont fait des demandes et lui leur a accordé. Subhanahu wa ta'ala. En vous rendant en terre sainte, vous répondez à l'appel d'Allah. Et c'est le fait de répondre à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala qui donne vie à vos cœurs. Allah Azza wa Jal a dit « Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi walirrasul idha da'akum lima yuhyikum wa'alamu anna allaha yahulu baynal mar'i wa qalbih wa annahu ilayhi tuhsharun » Ô vous qui avez eu la foi, répondez à l'appel d'Allah et du messager quand il vous appelle à ce qui vous fait vivre. Et sachez qu'Allah s'interpose entre l'individu et son cœur, et que vers lui s'effectuera votre retour. Par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, en cette journée du 25 Ramadan 1447, de l'égire du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous voici ici à Mecca, là où tout a commencé, là où la révélation est descendue de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, là où le Coran, qui est la base de la guidée, la source du bonheur et la plus grande cause de la réussite, a été révélée dans cette terre qui a été choisie par Allah subhanahu wa ta'ala et préférée à toutes les autres terres et tous les autres endroits. Vous êtes ici alors que le mois de Ramadan touche à sa fin, sans que aucun d'entre nous ne sache est-ce que ces œuvres sont acceptées ou non. Mais ce qui nous incombe, c'est d'œuvrer et de demander à Allah subhanahu wa ta'ala d'accepter, de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guider et de se rappeler ensemble des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il ne convient jamais d'oublier. Allah tabaraka wa ta'ala a dit « Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah » Il n'y a pas un bienfait duquel vous jouissez sans qu'il ne vienne d'Allah. Ainsi, Allah Azza wa Jal nous rappelle que le bienfaiteur par excellence est nul autre que lui. C'est lui qui nous a accordé vie, santé, subsistance et avant tout cela, qui nous a accordé le plus grand des bienfaits. Que les milliards de la terre ne suffiraient jamais pour acheter. Toute la terre et tout ce qu'elle comporte en son sein, les cieux, toutes les créatures, tous les trésors de cette vie, toutes les richesses. Si tu réunissais tout cela, tu ne pourrais même pas acheter 1% par Allah de ce bienfait dont nous allons parler. Et ce bienfait-là, c'est le plus grand des bienfaits d'Allah. Si Allah te l'accorde, sache qu'il t'a préféré à beaucoup de gens. Si Allah te le reprend, sache que tu es privé et tu peux posséder tout ce que tu veux. Mais si tu n'as pas ce grand bienfait-là, wallahi, tu n'as rien, tu es pauvre. Tu es faible même si tu es fort, pauvre même si tu es riche. Car la vraie richesse et la vraie force, c'est quelque chose qui s'installe dans ton cœur. On appelle ça al-iman, la foi, qui est un ensemble de convictions, de paroles et d'actions qui produisent dans la vie du croyant des effets positifs, qui le poussent à faire des bons choix, à suivre une bonne voie, à se réformer et à réformer les autres autour de lui. En d'autres termes et en résumé, à vivre une vie agréable et à réussir tant bien dans ce bas monde que dans l'au-delà. Cette foi-là, étant le plus grand des trésors, faisait l'objet de la plus grande crainte des salafs, des pieux prédécesseurs, qui avaient peur de la perdre. Ils n'étaient pas inquiets de perdre la subsistance parce qu'ils savaient qu'elle pouvait revenir. Non plus de perdre la santé ou de perdre telle et telle chose, bien que ce soit des grandes épreuves, qu'Allah nous en préserve. Mais leur plus grande crainte, c'était de perdre cette foi-là. Et puisqu'ils craignaient de perdre cette foi-là, chers frères, ils faisaient tout pour la nourrir de façon constante et perpétuelle. Car ils savaient que la foi monte, elle augmente, tout comme elle peut diminuer. Et chacun de nous le ressent. Tu passes sur des moments de ta vie où tu te sens bien, au point où tu te dis que si Allah reprend ton âme à ce moment-là, alors tu espères la grâce d'Allah Azza wa Jal. Mais tu passes par d'autres moments où tu sais que ton niveau de proximité avec Allah n'est pas celui qu'Allah attend de toi. Et tu le sens en toi-même. Ta poitrine se serre, ça ne va pas. Ton lien avec Allah n'est pas correct. Pour cela, les pieux prédécesseurs parmi les sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, et ceux qui les ont suivis, et jusqu'à présent, ils ont plein de paroles dans des récits qui leur sont rapportés, ou qui sont rapportés d'eux, où l'on apprend qu'ils disaient les uns aux autres, « Ijlis bina nu'minu sa'a »« Asseyons-nous ensemble pour nourrir notre foi un instant. »« Ta'alaw bina nazdad imanan » Réunissons-nous pour faire augmenter notre foi. Et Abdullah ibn Rawaha, radiyallahu anhu, ce noble compagnon, a dit au compagnon Abu Dhar, radiyallahu anhu, il lui a dit, Hayya bina nu'minu sa'a, venons, précipitons-nous, réunissons-nous pour nourrir notre foi un moment. فَإِنَّ الْقَلْبَ أَسْرَعُ تَقَلُّبًا مِنَ الْقِدْرِ إِذَا اسْتَجْمَعَتْ غَلَيَانَ Car certes le cœur se retourne plus rapidement que l'eau dans une marmite portée à ébullition. Médite un peu sur l'eau, à quelle vitesse elle tourne dans la marmite quand elle est en ébullition, quand elle est en train de bouillir. Les salafs avaient peur de perdre leur foi. Alors ils se disaient les uns aux autres, « Assieds-toi un instant avec moi. » Pourquoi ? Nous allons parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous allons le louer pour sa perfection et pour sa bienfaisance. Nous allons nous souvenir de ses versets. Nous allons les étudier et nous souvenir des hadiths du prophète alayhi salatu wa salam. Car si on ne le fait pas, alors nos cœurs se tourneront à une vitesse bien plus grande que la vitesse par laquelle l'eau ne cesse de se tourner dans la marmite quand elle est en train de bouillir. Donc la question de la foi est grave. Ce n'est pas une mince affaire. Et cette foi-là, si tu l'as, ce n'est pas parce que tu es intelligent, doué, motivé, et j'en passe, mais c'est parce que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu l'installer dans ton cœur. Et il te rappelle ce noble bienfait quand il te dit ولكن الله حبب إليكم الإيمان mais c'est Allah qui vous a fait aimer la foi وزينه في قلوبكم et qui l'a enjolivé, il l'a embelli dans vos cœurs وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان et il vous a fait détester la mécréance, les péchés majeurs et les péchés mineurs, comme cela a été expliqué par Ibn Sa'd, rahimahullah. Fadlan min Allahi wa ni'mah. C'est une grâce et un bienfait émanant d'Allah. Wallahu alimun hakim. Et Allah est omniscient, infiniment sage. Subhanahu wa ta'ala. Ulaika hum ar-rashidun. Ceux-là sont les bien orientés. Fadlan min Allahi wa ni'mah. C'est une grâce et un bienfait émanant d'Allah, wallahu alimun hakim. Allah subhanahu wa ta'ala te dit à toi le faible serviteur, plein de défauts, plein de défaillances, que cette foi que tu as dans ton cœur et qui anime, qui organise, qui gère et qui oriente tes choix et ta vie, c'est lui qui a voulu l'installer dans ton cœur. Est-ce que tu te rends compte de ça? Il t'a choisi toi pour te mettre la foi dans ton cœur. Alors qu'au même moment, il y a d'autres gens qui ne l'ont pas et qui n'ont pas goûté à la saveur de cette foi, qui a bel et bien une saveur. Au point où quand le prophète alayhi salatu wassalam a appelé son peuple à l'islam et il a appelé les grands gouverneurs qui n'étaient pas croyants à l'islam, parmi lesquels Héracle, l'empereur des Byzantins. Héracle a convoqué une personne parmi les plus proches du prophète alayhi salatu wassalam de l'époque qui était Abu Sufyan, qui n'était pas encore musulman. À l'époque où il est convoqué par Héracle, qui va lui poser des questions pour voir est-ce que le message porté par Mohammed alayhi salatu wassalam est vrai ou non, il n'est pas encore musulman. Il lui pose tout un tas de questions. Qui le suit? Est-ce que ce sont les pauvres ou les riches? Il lui dit, c'est les pauvres. Héracle dit, c'est ça les suiveurs des prophètes. Ensuite, est-ce qu'il a déjà menti? Non, il n'a jamais menti. C'est comme ça que sont les prophètes. Et lui dit, est-ce que l'un d'entre eux qui rentre dans cette religion quitte cette religion en la détestant après avoir entré dedans? Héracle dit, Abu Sufyan dit non. Héracle dit, ainsi est la foi quand sa douceur pénètre dans les cœurs. La foi a donc une douceur et elle a une saveur. Elle a un délice qui entre dans les cœurs, qui nous a été démontré par le prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith rapporté par l'imam muslim, d'après Anas ibn Malik, radiyallahu anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Thalathun, man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. » Il existe trois choses. Quand elles se réunissent en la personne, celles-ci goûtent à la saveur de la foi. Première chose, « An yakun Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. » Qu'Allah et son messager lui soient préférés que quiconque autre qu'eux. Que dans ton cœur, Allah subhanahu wa ta'ala soit ta préoccupation première, celui que tu préfères, et ton prophète après, sallallahu alayhi wa sallam. Sans ça, tu ne goûtes pas à la saveur de la foi. Lorsque c'est l'heure de prier, lorsque c'est la date de sortir la zakat, lorsque c'est la date d'aller au pèlerinage à la Mecque, lorsque c'est le moment d'obéir à tes parents, lorsque c'est le temps d'appliquer un des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là que tu vas montrer qui est-ce que tu préfères et qu'est-ce que tu préfères. Lorsque tu as le choix entre une transaction dont les bénéfices sont juteux et une transaction qui relève de l'akhira, de l'au-delà, le choix que tu vas faire va prouver ce que tu as dans le cœur comme préférence. Est-ce que c'est Allah que tu préfères, subhanahu wa ta'ala, et son prophète, alayhi salatu wassalam, ou alors les intérêts mondains? Qu'Allah et son messager lui soient plus aimés que quiconque autre que. La deuxième chose, an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Qu'il n'aime une personne que pour Allah. Que la seule chose qui te pousse à aimer quelqu'un ou ne pas l'aimer, c'est sa religiosité. Plus la personne est pieuse, plus tu l'aimes. Moins elle l'aime, moins tu l'aimes. Pas de foi, pas d'amour. Donc, ce qui te pousse à aimer ou détester, en vérité, c'est ce qui plaît à Allah ou ce qui lui déplaît. Et ce n'est pas tes passions ou ton âme, mais c'est parce que tu es un serviteur d'Allah, tu veux lui plaire et tu recherches ce qu'il aime. La troisième chose, an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da id anqadhahu Allah minhu kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. qu'il déteste revenir à la mécréance après qu'Allah l'en ait sauvé, comme il détesterait être jeté dans le feu. Après qu'Allah t'en ait sauvé, Allah t'a sauvé de la mécréance de deux façons. La première, c'est à la base. Tu nais musulman, tu vis musulman. Depuis le début, Allah t'a sauvé de la mécréance. Et la deuxième façon, c'est quand tu t'es converti en islam. Tu as passé un moment de ta vie dans le kufr, dans les ténèbres, dans le noir. Puis Allah subhanahu wa ta'ala t'en a sorti et t'a guidé à la foi. Alors après que tu aies été guidé à cette foi-là, tu dois détester la mécréance. Tu dois détester, quitter cette relation avec Allah pour laquelle tu as été créé et qui est la cause de la baraka dans ta vie et sans laquelle tu ne pourras être heureux ni réussir. Tu dois détester cette mécréance-là. Et si tu réunis en toi ces trois choses, tu aimes Allah et son prophète, alayhi salatu wasalam, plus que tout, tu aimes les croyants pour Allah, subhanahu wa ta'ala, d'un amour proportionnel à leurs bonnes actions, à leur piété, et tu détestes le kufr et retourner dans le kufr, alors Allah te fera goûter à la saveur de la foi. Et cette saveur de la foi est inexplicable. Il faut juste la ressentir, qu'Allah nous le permette. Subhanahu wa ta'ala. C'est cette foi-là qui a changé la vie des hommes, des femmes, au temps du prophète alayhi salatu wassalam, et qui a fait d'eux, après qu'ils furent des ennemis du prophète alayhi salatu wassalam, qu'ils détestaient l'islam, qu'ils voulaient le tuer, ils sont devenus les fervents défenseurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'un d'entre eux, quand il entrait en islam, goûtait à une saveur. Je vous laisse un instant vous imaginer et vous imager dans la tête, entrer en islam aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, assister à la révélation du Coran. Les compagnons nous disent, quand le Coran était révélé, le prophète alayhi salatu wa sallam tombait comme s'il était foudroyé, tellement la parole est lourde. Inna sanulqi alayka qawlan thaqila, a dit Allah. Nous allons te révéler une parole lourde. Il tombait parfois sur la cuisse d'un compagnon. Le temps de la révélation, le compagnon disait, j'ai cru que j'allais perdre ma jambe, tellement elle était lourde. Il avait des sueurs froides, alayhi salatu wa salam. Puis une fois la révélation terminée, il reprenait conscience et les compagnons étaient pressés de savoir, qu'est-ce qu'Allah t'a dit? Qu'est-ce qu'Allah t'a révélé? Parce que pour eux, chaque mot, chaque lettre qui était révélée par Allah subhanahu wa ta'ala était comparable à une goutte de pluie supplémentaire qui tombait pour arroser cette terre et faire pousser ses fruits. Mais cette terre-là est dans le cœur. Et c'est comme ça qu'ils voyaient la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Coran, la parole du prophète alayhi salatu wassalam, pour eux c'était une pluie. Et leur cœur pour eux était une terre. Ils avaient besoin de l'irriguer, de l'arroser. Alors ils s'abreuvaient de la foi par le Coran. Et le prophète alayhi salatu wassalam, quand il reprenait conscience, parfois il avait un grand sourire parce que des versets étaient révélés annonçant une grande nouvelle pour les croyants. Ainsi étaient les compagnons radiyallahu anhum. Et c'est pour ça qu'ils se convoquaient les uns les autres, ils se donnaient des rendez-vous, ils s'asseyaient et ils parlaient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sans ça, tu ne peux pas nourrir ta foi, ni l'augmenter, ni l'améliorer. C'est donc indispensable dans la vie du croyant. Et nous vivons une époque d'insouciance telle où l'on voit les gens se réunir, organiser des réunions, des rendez-vous, des assises dans lesquelles ils passent des heures les unes après les autres. Je ne dis même pas simplement pour faire des choses halal, mais inutiles. Maintenant, on arrive à des degrés plus graves encore, pour faire de la médisance, pour s'occuper de ce qui ne nous regarde pas, pour parler de choses qui ne nous apportent aucun bien. La fil dunya, dans ce bas monde, la fil qabr, dans notre tombe, la fil akhira, le jour dernier. Perdre du temps, faire du haram, pervertir son cœur, puis après on se demande pourquoi on n'est pas concentré, recueilli dans notre prière. Pourquoi on ne sent pas la saveur de la foi? Pourquoi on ne sent pas une quiétude, une sérénité en nous, parce qu'elle se paye, elle coûte cher, au point où les salafs, certains d'entre eux disaient, il passe des moments dans mon cœur, où si les rois et les fils des rois savaient ce qu'on ressentait, ils nous combattraient avec leurs épées pour nous l'enlever. Pourquoi est-ce qu'ils disent ça? Ce sont des savants. Ils savent que l'homme, depuis son plus jeune âge, ne cherche qu'à se réjouir. Réfléchis un peu sur ta vie, tes occupations, tes activités, ton repos, ton repas. Tout ce que tu fais, tu ne le fais qu'à la recherche de la réjouissance. Tout ce que tu fais, tu ne le fais que à la recherche de te réjouir. Ou alors, pour éviter un mal, tu te soignes, tu te couvres, tu manges bien pour éviter la maladie. Et tu ne fais cela que pour te réjouir, car la maladie ne te réjouit pas. Toutes tes activités, depuis que tu te réveilles jusqu'à ce que tu te couches, tu ne les fais que pour rechercher la réjouissance. Et cette réjouissance-là, elle ne s'atteint parfaitement que par l'Iman, que par la foi suivie des bonnes actions. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Man amila salihan minkum min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba » أخطأت من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن quiconque fait des bonnes œuvres homme ou femme tout en ayant la foi وهو مؤمن c'est la condition tout en étant croyant en ayant la foi فلنحيينه حياة طيبة nous lui ferons vivre une bonne vie c'est ça la bonne vie la vraie bonne vie c'est que ton cœur soit rempli de iman. C'est que tu connaisses ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Que tu connaisses ton devoir. Que tu connaisses ton rôle dans cette vie, ton statut. Et que les activités mondaines, externes, ne te distraient pas de cet objectif-là. Allah te fera vivre une bonne vie et t'accordera les récompenses selon les meilleures des actions que tu faisais. Mais cette fois-là, elle ne vient pas comme ça. Cette fois-là, elle vient avec la science. Il n'y a pas, retiens ces quatre choses-là. Il n'y a pas de bonheur sans la foi. Deuxièmement, il n'y a pas de foi sans science. Troisièmement, il n'y a pas de science sans apprentissage. Et il n'y a pas d'apprentissage sans effort. Tout comme tu fais des efforts dans cette vie pour acquérir des biens et autres, à plus forte raison, tu dois faire des efforts pour acquérir la foi, pour la nourrir et pour l'agrandir et l'augmenter dans ton cœur. Regarde le prophète, alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit « وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ » Ruhan min amrina. Et ainsi nous t'avons révélé une âme émanant de nous. En parlant du Coran, Allah le décrit comme étant une âme. Pour te dire que tout comme ton corps a besoin d'une âme pour vivre, ton cœur a besoin d'une âme pour vivre. Et cette âme-là, c'est la révélation d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ma kunta tadri mal kitab wa lal iman. Tu ne savais pas ce qu'était le livre, tu n'avais pas de connaissance. Non plus la foi. Donc c'est Allah qui te l'a enseigné. Il s'agit donc de science. Cette connaissance-là, elle t'amène la foi dans le cœur. Tu ne savais pas ce qu'était le livre, non plus la foi. Mais nous en avons fait une lumière. Par laquelle nous guidons qui nous voulons de nos serviteurs. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ Et tu guides très certainement vers un chemin droit. Ainsi Allah subhanahu wa ta'ala nous enseigne que si tu veux la foi, elle est dans le livre. Et ce livre c'est quoi? C'est le Coran. Et vous êtes dans le mois du Coran. choisi par Allah pour révéler ce livre-là. Le Coran qui contient tout le bien pour toi, dans ton bas-monde et dans l'au-delà. Il est tellement triste de voir que ce Coran est délaissé en lecture, en apprentissage, en enseignement, en mise en pratique. On se plaint de soucis, de peines, de difficultés dans nos vies, alors qu'on est détourné du Coran. Lorsque l'on se couche la nuit, on fait des comptes et on est pris par les soucis de cette vie et les problèmes de cette vie qui ne méritent pas qu'on leur accorde une telle importance. Ils prennent toutes nos pensées. On ne fait pas les invocations avant de dormir, ou pas assez, ou si on les fait avec des cœurs distraits. Non plus les invocations du réveil, de avant et après la prière, les invocations quotidiennes. Si on sait qu'il existe des invocations que l'on doit dire en prière, avant, après et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce qu'on est trop occupé par ce bas-monde. On est trop occupé par ce bas-monde-là. Il nous détourne de notre foi. Il nous détourne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que on n'est pas dans la quiétude et dans la sérénité. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidhikrillah » Ceux qui ont eu la foi et dont les cœurs se sont apaisés par le rappel d'Allah. « Ala bidhikrillahi tatma'innu qulub » N'est-ce pas par le rappel d'Allah que les cœurs s'apaisent? Si tu veux voir ton cœur s'apaiser, remplis ta vie de rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, avec ta langue, en récitant le Coran, en invoquant Allah, en mentionnant le nom d'Allah dans ta maison, par l'apprentissage, par ton mode de vie. Ton mode de vie doit être un dhikr, un rappel d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Certains salafs disaient, quand je vois l'imam Shafi'i marcher, je me rappelle d'Allah. Il le voyait juste marcher, il voyait une démarche pleine d'humilité, pleine de crainte d'Allah. Il voyait un comportement de quelqu'un qui était préoccupé par l'au-delà. Au point où quand il était à Ramadan, eh bien il terminait le Coran chaque jour et chaque nuit. L'imam Shafi'i, rahimahullah, 60 fois il lisait le Coran pendant le mois de Ramadan. Ils étaient de loin ces gens-là. Ils avaient peur d'Allah. Et pourtant ils avaient les plus hauts degrés de foi. Ils avaient les plus hauts degrés de iman. Mais quand ils entendaient les versets du paradis, ils disaient « Mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça, moi ? Je n'ai pas assez d'action. » Et quand ils entendaient les versets de l'enfer, ils avaient peur. Certains d'entre eux partaient dormir la nuit et ils bougeaient dans son sommeil, ils transpiraient, ils bougeaient dans tous les sens, ils retournaient dans tous les sens sa couverture, ils ne trouvaient pas le sommeil. Ensuite, ils se levaient, ils allaient faire les ablutions. Puis il allait faire deux rakas et en soujoud, en prosternation, il disait « Oh Allah, l'enfer m'empêche de dormir. » Et nous, on est là et on dirait que l'enfer, ça ne nous concerne pas. Que le jugement, où on va arriver nu, pieds nus, incirconcis, avec tous nos péchés, on n'est pas concerné par ça. On est concerné par autre chose. Eux, ils étaient pris par l'iman. Au point où l'un d'entre eux, avant de mourir, il commençait à pleurer. On lui disait, mais pourquoi tu pleures? Tu pleures par tes péchés? Tu pleures à cause de tes péchés? Il dit, non, mes péchés pour moi, c'est comme ça, c'est insignifiant. J'ai peur qu'on m'enlève le iman avant que je sorte de ce bas-monde. J'ai peur de perdre la foi avant de sortir de ce bas-monde. Parce qu'ils savent, comme l'a dit l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, que le jour dernier, si tu viens avec des péchés, mais tu viens avec le tawhid, tu viens avec l'iman, il dit « As-sayyi'atu kathira wa dafi'u laha qawi » Les péchés sont nombreux, mais l'arme qui va les repousser est tellement forte. Et c'est l'iman. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Yabna Adam, ô fils d'Adam, law ataytani bi qurabi al-ardi khataya » Si tu venais à moi, c'est-à-dire le jour dernier, avec autant de péchés que la terre peut en contenir. Imagine-toi la terre dans sa vasteté, remplie de tes péchés. au point de remplir toute la terre. Si tu venais à moi avec autant de péchés que la terre peut en comporter, que la terre peut en contenir, mais tu viens à moi sans m'associer rien du tout, sans rien m'associer, c'est ça l'iman, que tu n'associes rien à Allah, je viendrai alors à toi avec autant de pardon. Tu viens le jour dernier avec 1 milliard de péchés, avec le tawhid, avec l'iman, parce que l'iman ne veut pas dire parfait. Tu vas avoir des péchés, tu vas avoir des fautes, mais tu apportes avec toi at-tawhid, l'unicité d'Allah dans ton cœur. Tu viens avec un cœur qui n'a rien associé à Allah, qui ne s'est pas attaché à un autre qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, qui n'a pas adoré un autre qu'Allah. Si tu viens avec 1 milliard de péchés, Allah vient avec 1 milliard de pardons. Tant que tu ramènes l'iman avec toi, regarde les fruits de l'iman. Ce iman-là, cette foi-là, dans ton cœur, c'est comme un arbre. Et tu dois l'arroser pour faire pousser, grandir son tronc, pousser ses arbres et pousser ses fruits. Et Allah a comparé dans le Coran, l'iman, la foi à un arbre. Dans surat Ibrahim, Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Alam tara kayfa darab Allah » Mathalan, kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyiba. N'as-tu pas vu comment Allah a montré en parabole? Une parabole, c'est une comparaison entre une chose concrète et abstraite, plutôt entre une chose sensible, c'est-à-dire que l'on peut percevoir par les sens, et quelque chose qui relève du concept, conceptuel. Quand on parle de la foi, c'est pas quelque chose qui est palpable. Donc, pour nous faire comprendre la foi, il va nous parler, subhanahu wa ta'ala, de quelque chose que l'on peut percevoir par les sens. N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole, qui est la parole la ilaha illallah, la parole de la foi, qui est semblable à un bel arbre, asluha thabit, dont les racines sont ancrées au sol, solides, wa far'uha fi sama, et les branches s'élancent vers le ciel. Cet arbre-là produit ses fruits à chaque moment par la permission de son Seigneur. Dans ce verset-là, Allah nous parle de l'arbre de la foi dans le cœur du croyant, qui est arrosé par le tawhid, par l'unicité d'Allah et par la connaissance de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus tu arroses cet arbre-là par la foi en Allah et sa connaissance, plus il grandit, plus les branches poussent et plus il donne des fruits. Mais ce n'est pas comme un arbre qui donne des fruits à une saison précise. Il donne des fruits à chaque moment. تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا. Il donne des fruits à chaque moment. Cet arbre-là, il n'y a pas de saison. C'est à chaque moment. Et le prophète, alayhi salatu wa salam, a dit un jour à ses compagnons, « Inna mina shajari shajaratan la yasqutu waraquha. Hadithuni mahi. » Il y a parmi les arbres un arbre dont les feuilles ne tombent pas. Parlez-moi-en. De quel arbre il s'agit? Les compagnons ont commencé à répondre les uns après les autres. Tel arbre? Non. Tel arbre au messager d'Allah? Non. Tel arbre au messager d'Allah? Non. Quand ils n'ont pas répondu, le prophète alayhi salatu wasalam leur dit, c'est le palmier. Et c'est de cet arbre-là dont il parle dans le Coran, subhanahu wa ta'ala, quand il compare la belle parole à un bel arbre, c'est-à-dire au palmier. Car le palmier est le meilleur des arbres. C'est la preuve qui est dans le Coran et dans la Sunna. Le palmier est le meilleur des arbres. Tout est utile dans le palmier. Tu peux manger du palmier. Tu peux utiliser ses troncs, ses feuilles, ses branches. Tout est utilisable dans le palmier. C'est un arbre béni. Et si tu médites sur cet arbre-là, il est fortement ancré au sol. Ainsi est la foi dans le cœur du croyant. Elle doit être fortement ancrée. Le tronc ne bouge pas, il est inébranlable. C'est ainsi que doit être la foi du croyant. Et ses branches, elles montent vers le ciel. Et c'est comme ça que le croyant est. Toutes ses bonnes actions montent vers Allah, subhanahu wa ta'ala. Le palmier ne nuit à personne, parce que ses feuilles ne tombent pas. Les feuilles du palmier, elles ne tombent pas. Pareil pour le croyant, il ne nuit à personne. Et en plus de ça, le palmier te nourrit. Pareil pour le croyant. Il nourrit son cœur et il nourrit les autres par le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'Allah l'a comparé la foi au palmier. Et donc, on doit toujours se poser la question, comment nourrir notre foi? Comment augmenter notre foi? Comment se fait-il qu'on ne se pose pas cette question et qu'on se contente de prier, de jeûner physiquement seulement? Alors que, comme l'a dit l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, tous les ordres donnés par Allah subhanahu wa ta'ala concernent avant tout le cœur. C'est-à-dire que quand Allah t'ordonne de prier, il a ordonné à ton cœur de prier avant tout. Quand Allah t'a ordonné de jeûner, il a ordonné à ton cœur de jeûner avant tout. Quand Allah t'a ordonné de payer la zakat, c'est ton cœur qui paye la zakat avant tout. Quant au corps, lui, il ne fait que manifester physiquement le ressenti qui doit être présent dans le cœur. C'est ça la ibadah, c'est ça l'islam, c'est ça les bonnes actions. C'est pour ça que l'imam Ibn al-Uthaymin, rahimahullah, a été interrogé, il a dit, si vous me posez la question de savoir quelle est la définition du jeûne, vous allez certes vous étonner si je vous dis qu'il ne s'agit pas de ne pas manger, de ne pas boire et de ne pas avoir de rapport. Ce n'est pas ça le jeûne. Il dit le jeûne, c'est le jeûne du cœur, qui consiste à s'abstenir de tout ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Le reste, ça ne fait que suivre. Alors tu dois te poser la question, tu dois te poser la question de savoir comment nourrir cette foi-là, comment la faire grandir, parce que c'est bel et bien possible. Et on a tous des fois cette question, on se dit je ne comprends pas, je n'arrive pas à augmenter ma foi. Il y a quelque chose qui ne va pas bien. Je n'arrive pas à nourrir ma foi. Ça ne va pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Est-ce que c'est impossible? Non, ce n'est pas impossible. Mais il faut connaître la route. Si tu n'arrives pas à aller à telle destination, c'est parce que tu ne connais pas la route à suivre. Peut-être. Et si tu la suis, peut-être qu'en cours de route, tu t'es arrêté. Tu n'as plus d'essence dans ta voiture. Tu es tombé en panne. Tu n'avais pas prévu de mettre le plein avant de partir. Pareil pour ta foi. Tu dois prendre en considération toutes ces choses-là. Alors le premier point qui va nourrir ta foi d'une façon incroyable, sans pareil. Et si tu voyageais jusqu'en Chine ou jusqu'à l'autre bout de la terre pour payer ce premier point-là, alors tu aurais fait très peu pour l'avoir. Ce premier point-là, c'est la base de tout. Sans ça, tu n'auras pas l'iman dans ton cœur. C'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. De connaître Allah tabaraka wa ta'ala par ses noms avec lesquels il s'est nommé et les attributs avec lesquels il s'est décrit. Que tu saches qui est Allah et qu'est-ce qu'Allah fait. Qu'est-ce qu'Allah aime? Qu'est-ce qu'Allah n'aime pas? Combien est sa grandeur, sa perfection, subhanahu wa ta'ala. Cette science-là, Allah te l'a ordonnée dans plein de passages du Coran. Sachez qu'Allah est parfaitement sage. Sachez qu'Allah sait ce qu'il y a dans vos cœurs. Sachez qu'Allah est capable de tout. Sachez, 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 sachez. Il t'ordonne de savoir quels sont ses attributs, quelles sont ses actions. En d'autres termes, il t'ordonne de le connaître. Et il t'informe dans le Coran qu'il a créé les cieux et la terre pour se faire connaître à ses serviteurs. Dans la fin de Sourate At-Talaq, le divorce, il dit subhanahu wa ta'ala, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawat. Allah est celui qui a créé sept cieux. Wa min al-ardi mithlahun. Et un nombre égal de terres. Il a créé sept cieux et sept terres. Avec tout ce qu'il y a dedans. Comme créature, comme habitant. يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنْ. Entre ces créatures-là, les cieux et la terre, descend son ordre. لِتَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Tout ceci afin que vous sachiez qu'Allah est omnipotent, que la puissance d'Allah a atteint toute chose et que rien ne peut le réduire à l'incapacité, qu'il est capable de tout. Le fait qu'il ait créé les cieux et la terre sert à te montrer combien il est capable Et donc, ça te fait le connaître. وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Et afin que vous sachiez aussi qu'Allah, que la science d'Allah s'étend au-delà de toute chose. Qu'Allah a tout connu. Car celui qui a créé ces cieux-là, ces terres, avec toutes ces créatures, Wallah, il connaît tout, subhanahu wa ta'ala. Le fait de connaître les noms et les attributs d'Allah, azza wa jal, te montre qui est Allah. Ça te montre qu'il est parfait. Et ça te montre que ton cœur doit être attaché à lui, et pas à autre que lui. Et donc tu nourris ta foi par cela. Et c'est pour cette raison, méditez dans votre lecture du Coran, que la plupart des versets, la plupart, dans toutes les pages, vous savez, dans le Coran, il y a certains masahif, certains mushaf, les livres du Coran, qui ont le nom Allah écrit en rouge. Méditez un instant. Tournez les pages les unes après les autres. Vous allez voir le nom d'Allah partout. Allah, 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 Allah. Partout, partout, partout. Et le nom Allah, c'est le nom mère de tous les noms d'Allah. C'est le nom qui signifie l'essence comportée dans tous les autres noms d'Allah. Ensuite, vous allez voir dans la plupart des versets qui traitent des règles religieuses, de ce qui est obligatoire, interdit, halal, haram. Vous allez voir que la plupart de ces versets se terminent avec un, deux ou plusieurs noms d'Allah. Pourquoi ? Parce que c'est justement la connaissance de ces noms d'Allah par lesquels ces versets sont clôturés que nous allons appliquer les règles d'Allah par lesquelles les versets débutent. C'est donc ta connaissance d'Allah qui va te pousser à prier correctement. Et si tu médites le Coran, tu vois qu'Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple, te dit dans Ayat al-Kursi, « Allahu la ilaha illahu » « Allah, nulle divinité autre que lui ne mérite l'adoration. » Ça, c'est la base de la foi. Comment nourrir cette foi ? Comment prouver cette foi ? Comment la grandir dans mon cœur ? Tout ce qui suit est une série de preuves qui te montrent qui est Allah pour que tu aies foi en lui. Et la première preuve qu'on trouve, c'est deux noms d'Allah. Al-Hayy ul-Qayyum. Al-Hayy, c'est le vivant par excellence. C'est celui dont la vie est parfaite. Elle n'a ni début, ni fin. Et en plus de ça, elle est sujet à aucune défaillance. C'est la vie parfaite. Subhanahu wa ta'ala. Al-Qayyum. Al-Qayyum, c'est celui par lequel tout subsiste et qui subsiste par lui-même. Il est indépendant de toute créature. Et toute créature est dépendante de lui. Subhanahu wa ta'ala. Si tu médites un peu ces deux noms-là d'Allah, tu verras qu'ils réunissent en eux deux choses. Qui est Allah ? Et qu'est-ce que fait Allah ? Car les attributs d'Allah se divisent en deux. Il y a certains attributs qui sont rattachés à son essence. Ce sont les attributs qui nous montrent qui est Allah. Qui est Allah ? C'est celui qui est puissant, celui qui est immense, celui qui est parfait, celui qui est seul, celui qui est beau, celui qui est pur, celui qui est capable de tout, celui qui est riche. Si tu veux réunir tout ça, tu n'as qu'à dire le nom d'Allah, Al-Hayy, le vivant par excellence. Donc qui est Allah ? C'est Al-Hayy, c'est celui dont la vie est parfaite et que nul ne partage avec lui. Ensuite, qu'est-ce qu'Allah fait ? Al-Qayyum. Al-Qayyum, c'est un nom d'Allah qui résume tout ce qu'Allah fait. La création, il guide, il égare qui il veut, il fait tomber la pluie, il éprouve quelqu'un par la maladie, il enrichit quelqu'un. Il guérit quelqu'un, il accorde, il reprend. Tout ce qu'Allah fait est réuni dans le nom Al-Qayyum. Donc si tu posais la question, qui est Allah et qu'est-ce qu'Allah fait ? La réponse est Al-Hayy Al-Qayyum. Et c'est pour cela que le prophète والسلام, nous enseigne, et c'est l'avis de beaucoup de savants, que ces deux noms-là sont les noms qui, lorsque tu invoques Allah par eux, il répond à ta demande. Mais à condition que tu comprennes. Car les effets des invocations, les effets du dhikr avant de dormir, après la prière et ainsi de suite, sont proportionnels à la présence de ton cœur au moment où tu prononces ces paroles. Et cette présence de cœur est proportionnelle à la connaissance que tu as de ces paroles. Voyez un peu l'importance de la connaissance. Ne ratez pas la connaissance d'Allah. Un des salafs a dit « Masakinu ahlu hadhihi dunya » Pauvres sont les gens attachés à cette vie d'ici-bas. « Kharaju minha وَلَمْ يَذُوقُوا أَطْيَبَ مَا فِيهَا. Ils ont quitté cette vie-là, ils ont vécu 20, 30, 40, 60, 80 ans. Ils ont travaillé, voyagé, ils sont tombés malades, puis ils ont guéri. Ils ont mangé, puis ils ont eu faim. Ils ont été éprouvés, puis ils s'en sont sortis. Ils ont vécu leur vie avec toutes ces expériences, avec tout ce que l'on fait dans la vie. Sauf que, ils ont fini par quitter ce bas monde sans goûter à la meilleure chose qui s'y trouve. Un qui était présent a dit, « وَمَا أَطْيَبُ مَا فِيهَا ?» Et quelle est la meilleure chose se trouvant dans cette vie d'ici-bas ? Il a répondu, « مَعْرِفَةُ اللَّهِ وَمَحَبَّتُهُ وَالْأُنْسُ بِقُرْبِهِ وَالشَّوْقُ إِلَى لِقَائِهِ » C'est le fait de connaître Allah, de l'aimer, de se sentir proche de lui et l'envie de le rencontrer. Si tu sors de cette dunya et que tu n'as pas eu ça dans ton cœur, ta vie ne t'a servi à rien. Tu as tout perdu. Si tu quittes cette dunya, si tu quittes cette vie sans avoir connu Allah subhanahu wa ta'ala, alors que tu as réuni en toi toutes les sciences profanes, tu connais les sciences de la dunya, tu es capable de les énumérer, tu as brillé, tu as excellé, et tu ne connais pas Allah. Ça ne t'a servi à rien de connaître cette dunya. Et ça, c'est le premier point pour nourrir ta foi, c'est de connaître Allah, d'étudier les noms d'Allah, les attributs d'Allah, les actions, qu'est-ce qu'Allah fait, qu'est-ce qu'Allah aime, qu'est-ce qu'Allah n'aime pas. C'est ça qui va te faire aimer Allah, subhanahu wa ta'ala. Le deuxième point, c'est de méditer Rububiyatullah, un des attributs d'Allah particulièrement qui est la seigneurie. C'est-à-dire de méditer sur le fait qu'Allah est le Seigneur des mondes, que c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui t'a accordé la subsistance, c'est lui qui t'a guéri, c'est lui qui protège, c'est lui qui te donne et qui te reprend. Toi, tu n'es rien. Toi, tu n'es qu'une créature insignifiante. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit « Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ilallah. » Ô vous les gens, vous êtes les véritables pauvres devant Allah. « Wallahu huwa al-ghaniyul hamid. » Alors qu'Allah, lui, est le parfaitement riche, digne de louange. Subhanahu wa ta'ala. Allah est parfaitement riche et toi, tu es vraiment pauvre. Et tu n'as rien, toi. Mais Allah a tout. Ce que tu as, c'est ce qu'il t'a donné. Ce qu'il t'a donné, il peut te le reprendre en un instant. Subhanahu wa ta'ala. Il suffit qu'Allah t'enlève la vue pour te rendre malheureux. Il suffit qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'enlève l'oxygène pour que toutes tes richesses ne te soient d'aucune utilité. Il suffit qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'empêche de te réveiller quand tu vas dormir. Il reprend ton âme pendant ta mort pour que tu perdes tout. Non. Pendant ton sommeil, Ahsant. Pendant ton sommeil, pour que tu perdes tout. Donc tu dois méditer sur le fait qu'Allah est ton Seigneur. Subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que les prophètes, quand ils invoquent Allah, à chaque fois ils disent « Ya Rab, Rabbana, Rabbi, Rab, Rab ». Ils invoquent Allah en citant ce nom-là, « Ô Seigneur ». C'est comme s'ils disaient « Ô Allah, toi qui m'as créé, toi qui m'as protégé, toi qui m'as donné la subsistance, je te demande de m'accorder telle, telle et telle chose ». Et le fait de méditer sur la seigneurie d'Allah, tu le retrouves dans le Coran. Et c'est pour ça que le noble compagnon Jubayr ibn Mut'im, radiyallahu anhu, a embrassé l'islam. Il est venu voir le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'il n'était pas musulman. C'était un kafir, un mushrik. Et le hadith est rapporté par l'imam muslim. Il est venu négocier avec lui la rançon des captifs de la bataille de Badr, parmi les ennemis de l'islam. Sauf que le prophète, alayhi salatu wassalam, profitait toujours de la venue des kuffars, soit pour réciter le Coran, ou alors il les mettait à côté, des fois il mettait les captifs dans la mosquée, il les attachait dans les piliers de la mosquée, pour qu'ils voient ce qu'ils ne voulaient pas voir, pour qu'ils voient les rangs dans la prière, l'organisation de l'imam, des fidèles, pour qu'ils écoutent la récitation. Et c'est ainsi que Jubayr ibn Mut'im, à ce moment-là, il arrive, il est kafir billah. Et il trouve que le prophète est en train de prier la prière du Maghrib. Et il récite Sourate At-Tur, la Sourate 52 du Coran. Alors il se met à écouter. Et il voit que le prophète, alayhi wasalam, passe par le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal arda bal la yuqinun. Ont-ils été créés à partir de rien? C'est-à-dire ces gens-là qui ne veulent pas croire en Allah et qui ne veulent pas de la foi dans leur cœur. Dis-leur, rappelle-leur ça. Rappelle-leur la seigneurie d'Allah. Ont-ils été créés à partir de rien? Ou sont-ils leurs propres créateurs? Ont-ils créé les cieux et la terre? Ou vraiment ils ne sont pas certains? Il entend ce verset-là et il dit « Kada qalbi an yatir » وذلك اول ما وقر الايمان في قلبي. À ce moment-là, il s'en fallait de peu pour mon cœur qu'il s'envole. Et c'est à ce moment-là que la foi a pénétré mon cœur. À quel moment? Au moment où il a écouté le verset où Allah parle de la seigneurie. Et Allah te dit: as-tu été créé à partir de rien? Ou alors c'est toi qui t'es créé tout seul? Ça, c'est une réalité qui te marque. Tu te souviens tout de suite, en fait, je ne suis rien, moi. Moi, je ne me suis pas créé. Je ne peux rien faire. Et si Allah en décide, eh bien, il m'arrivera ce qu'il va décider. Le fait de méditer ça te pousse vers la foi. Je ne suis personne. Je ne peux que me soumettre à Allah, subhanahu wa ta'ala. Le troisième moyen de nourrir ta foi, cher musulman, chère musulmane, c'est de méditer sur les bienfaits d'Allah. Regarde comment Allah t'a comblé, comment il t'a honoré, il t'a favorisé à beaucoup de gens. Tu manges jusqu'à être rassasié, tu bois jusqu'à t'abreuver pleinement, tu as un toit, tu as une famille qui t'entoure, tu vis en sécurité, tu jouis des bienfaits d'Allah, tu as une activité, une rentrée, et ainsi de suite. Ya akhi, cher musulman, tu crois que ça vient de toi, ça? Tu crois que tu as ça parce que tu es intelligent? Tu crois que tu as ça parce que tu es capable, parce que tu as du temps libre, ou parce que tu as voulu faire et c'est venu comme ça? Wallahi wa billahi wa tallahi al-azim. Si tu l'as, ce bienfait-là, ce n'est que parce qu'Allah a écrit 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre, que tu devais avoir ce bienfait-là. Il a donc voulu te l'accorder. Et tout comme il a voulu te l'accorder, il est capable de vouloir te l'enlever. Donc le fait de méditer sur le bienfait, de te dire, tous ces gens-là qui sont dans la détresse, Allah m'a épargné. Subhanahu wa ta'ala. Regarde le grand bienfait du din qui est la base de tout. C'est le plus grand des bienfaits d'Allah sur lequel tu dois méditer. L'islam, c'est le chemin du paradis. Si tu es musulman, ça veut dire qu'Allah a voulu te mener au chemin qui conduit au paradis. Et plus tu augmentes ta foi, plus ça montre qu'Allah veut t'emmener au paradis. Et ça, c'est le plus grand des bienfaits d'Allah. Il t'a comblé par le meilleur des bienfaits. Tu vis avec un mode de vie qui est animé par la connaissance d'Allah, par les ordres et les interdits d'Allah. C'est ça qui te nourrit, c'est ça qui t'organise, c'est ça qui t'oriente. Regarde comment ceux qui ne croient pas en Allah vivent comme des animaux. وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَأْكُلُونَ وَيَتَمَتَّعُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Et ceux qui ont mécru mangent et jouissent comme les bestiaux mangent. Et au final, c'est le feu qui sera leur demeure. Tu vois des fois des gens qui ont vécu des années, des dizaines d'années à côté de la vérité, loin de la vérité. Toute une vie comme ça, dans le kufr billah, subhanahu wa ta'ala, une vie complètement malheureuse, sans véritable objectif. Et en plus de cela, cette personne-là meurt dans ce kufr. Et ce qui lui l'attend devant Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahi, c'est bien pire encore. Et toi, Allah t'a épargné de ça. Il t'a choisi pour être un musulman, pour être un croyant. Et il t'a accordé plein de facilités, plein de bienfaits. Vas-tu être reconnaissant? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbika al-karim. Ô toi l'homme, qu'est-ce qui t'a trompé concernant ton noble Seigneur? Te dit Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qui t'a trompé concernant ton noble Seigneur? Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma sha'a rakabak. Celui qui t'a créé, qui t'a façonné et qui t'a donné cette image-là que tu as. Qu'est-ce qui t'a trompé? Pourquoi tu as délaissé ta salat? Pourquoi tu l'as négligé? Pourquoi tu as vécu dans le haram? Pourquoi tu manges le haram? Qu'est-ce qui t'a trompé d'Allah? Pourquoi tu hésites à répondre à ses ordres? Qu'est-ce qui t'a trompé d'Allah? Pourquoi tu ne délaisses pas ses interdits? Qu'est-ce qui t'a trompé concernant Allah subhanahu wa ta'ala? « Ya ayyuhan nas, inna wa'dallahi haqq. » Ô vous les gens, la promesse d'Allah est vérité. « Fala yagurrannakumu, fala tagurrannakumu l'hayatu d'dunya, wala yagurrannakum billahi l'gharour. » Que la vie d'ici-bas ne vous trompe pas, et que le grand trompeur c'est Iblis, qu'il ne vous trompe pas non plus. Qu'Allah nous en préserve. Ainsi, si tu médites les noms d'Allah, les attributs d'Allah, la seigneurie d'Allah, si tu te rappelles des bienfaits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu vas nourrir ta foi. Il faut que tu apprennes ta religion. Il faut que tu profites de ce genre de voyage pour en faire un moment de réforme. Il faut arrêter de vivre dans une routine qui te détruit à telle heure, puis à telle heure, puis à telle heure, et demain la même chose, et après-demain la même chose. Et après-demain, la même chose. Et à cause de cette routine, tu dis, « Inch'Allah, quand j'aurai un moment, je vais faire telle chose. Inch'Allah, quand j'aurai le temps, je vais améliorer telle chose. » Puis au final, tu ne le fais pas. Tu ne le fais pas. Donc, craignons Allah subhanahu wa ta'ala et nourrissons notre foi. Et corrigeons-nous. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala nous nourrira la foi et nous améliorera. Subhanahu wa ta'ala. Et je termine par un hadith dans lequel le prophète alayhi salat wa salam nous montre qu'il est important de nourrir notre foi. Et subhanallah, ça c'est parmi les bienfaits d'Allah sur moi. Subhanahu wa ta'ala. Et pour lequel, wallahi wa billah, je remercie Allah subhanahu wa ta'ala de m'avoir accordé ce frère-là qui est assis à ma droite. Qu'Allah le préserve. Et qu'Allah vous préserve aussi. Wallahi, que je vois ça comme un des plus grands bienfaits d'Allah sur moi, subhanahu wa ta'ala. Car il me reprend, je le reprends. Il m'aide et je l'aide. Et ça, c'est un grand bienfait d'Allah. Et là, il vient de me citer un hadith, subhanallah, que je voulais vous dire en début de cette intervention, mais qui m'a échappé. Mais Allah m'a ramené cette créature à côté de moi, qui me l'a rappelé, qu'Allah l'élève en degré et qu'Allah lui accorde le paradis. Dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna l'imana la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb » Certes, la foi s'use dans la poitrine de l'un d'entre vous comme le vêtement s'use. Regarde, médite sur le vêtement. Le prophète alayhi salatu wa sallam te donne des images qui sont parlantes. Le vêtement, au début, tu l'as, il est neuf. Tu es content. Pareil pour la foi. Quand tu entres dans la foi, tu es content, comme un vêtement neuf. Ça te fait du bien. Tu sens en toi quelque chose de bien. Tu as envie de faire des changements. Là, tu as le vêtement neuf. Sauf que cette foi, elle s'use. Comme le vêtement. Tu ne le repasses pas. Tu ne le nettoies pas. Tu vois la tache qui commence à arriver, comme une tache que j'ai ici, que je n'ai pas envie de vous montrer. Et tu vois qu'il commence à s'user. Et ainsi de suite. Et si tu ne prends pas soin de ce vêtement-là, il est usé. Si tu ne le laves pas, il est sale. Pareil pour ta foi. Le prophète alayhi wasallam dit « Fas'alu Allah ta'ala an yujaddid al-iman fi qulubikum » Demandez donc à Allah, le Très-Haut, de renouveler votre foi dans votre cœur. Subhanahu wa ta'ala. Et donc, le prophète alayhi wasallam te montre ici que la foi, elle s'use. Et que si tu ne prends pas soin de ta foi, de même que si tu n'arroses pas ton arbre, à la saison où il faut cueillir, il n'y aura rien, parce que tu ne lui as pas donné d'eau. Et pas seulement. Regarde l'agriculteur, qu'est-ce qu'il fait? Il arrose, mais il doit aussi enlever les mauvaises herbes. S'il n'enlève pas les mauvaises herbes, il va pourrir son fruit. Et quand il va manger, il aura un mauvais goût. Pareil pour ta foi. Tu dois l'arroser et tu dois enlever les mauvaises herbes. Et ça, c'est en le renouvelant tout le temps. C'est pour ça que parmi les plus grands bienfaits d'Allah sur nous, c'est ces assises-là. Et cette assise-là, elle se fait en plus à la Mecque. Allah Azza wa Jal, il t'a amené toi du Maroc, d'Algérie, de France, du Cameroun, du Niger, du Sénégal, du Mali. Et on s'est tous réunis ici pour une seule et même raison. Pour parler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'alullah azza wa jal bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula. Nous invoquons Allah par ses noms les plus beaux, par ses attributs les plus parfaits. An yudkhilana jannata. Qu'il nous fasse entrer dans son paradis. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم ثبتنا على الإيمان هو الله maintiens nos cœurs dans ta religion et dans la foi اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا هو الله réforme notre religion وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا réforme notre vie ici-bas وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا réforme l'au-delà dans lequel s'effectuera notre retour. Et fais que cette vie soit pour nous une augmentation dans tout bien. Et fais que la mort soit pour nous un repos de tout mal. Allahumma inna na'udhu bika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fuja'ati niqmatik wa jami'i sakhatik. O Allah, nous te demandons de nous protéger contre la disparition soudaine de tes bienfaits, contre le changement de la situation où on est dans de bonnes conditions à celle où on est dans de mauvaises conditions. On te demande de nous protéger de ta colère. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide dans le droit chemin et qu'il fasse de ces derniers jours une guérison pour nos cœurs, une purification pour nos âmes. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nos fautes. Qu'Allah azza wa jal pardonne à ceux d'entre nous qui sont morts et guérisse nos malades. Nas'alullah azza wa jal an yumatti'ana bin-nazar ila wajhihi al-karim ya rabbal alamin. Allahumma matti'ana bin-nazar ila wajhika al-karim. Allahumma aj'al hadhihi al-majalis nafi'atan lana fi dinina wa dunyana wa akhiratina wa qabrina. Innaka sami'ud du'a. يا لطيف يا محسن يا بر يا طيب يا رحيم يا ودود يا منان يا وهاب يا معطي يا ذا الجلال والإكرام يا كريم يا أكرم إنك على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جزاكم الله خيرا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيكم